Bonjour. Les saints de la semaine nous amènent du lundi 31 mai au dimanche 6 juin inclus. Lundi 31 mai, visitation de la Vierge Marie. La fête de la visitation commémore un épisode de l'évangile selon saint Luc. En voici la lecture. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alors, elle poussa un grand cri et dit: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et bénie le fruit de son sein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Oui, la visitation est une fête chrétienne qui rappelle le souvenir de la visite que fit Marie, enceinte de Jésus, à sa cousine Élisabeth, elle-même enceinte de Jean-Baptiste. La Mère de Dieu ne pouvait contenir la joie de l'annonce qui lui avait été faite. Elle ne pouvait pas encore la partager avec Josette, qui pour le moment n'aurait pu la comprendre. Elle va rejoindre sa cousine Élisabeth, enceinte comme elle. Et Jean-Baptiste partage cette allégresse en tressaillant dans le sein de sa mère. La fête de la visitation commémore la sainte rencontre de deux enfants à naître et le Magnificat de Marie qui jaillit de son exultation. Marie rendit visite à sa cousine Élisabeth, enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et la salua. À la rencontre, dans la joie des deux futures mères, le Rédempteur, par sa venue, sanctifia son précurseur encore dans le sein de sa mère, et Marie, en réponse à la salutation d'Élisabeth et exultant dans l'Esprit Saint, magnifia le Seigneur par un chant de louange. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mardi 1er juin, Saint Justin, qui fut philosophe et martyr, mourut en 165. Il naquit à Naplouse, ville de Palestine, bâtie sur l'ancien site de Sichem. Ses parents étaient des païens très aisés, qui lui firent faire des études très poussées. Il est alors à la recherche de la sagesse. Il en parle dans ses dialogues avec Tryphon, où il nous raconte sa longue quête. Il se confie à un maître stoïcien, mais celui-ci ne lui parle pas de Dieu. Il le quitte pour un disciple d'Aristote qui ne s'intéresse qu'à ses honoraires. Les platoniciens lui offrent une doctrine solide et exaltante. Saint Justin pensait avoir trouvé ce qu'il cherchait. Mais sa rencontre avec un chrétien le fait aller plus loin. La vérité tant recherchée, seul le Christ peut la lui donner. À 30 ans, devenu chrétien, il ne renie pas sa quête philosophique. Elle est, à ses yeux, une préparation de la révélation chrétienne, chaque doctrine contenant une parcelle de la vérité totale qui se trouve dans le Christ. Il commence alors une carrière d'enseignant, fonde des écoles de philosophie à Éphèse, puis à Rome. C'est alors que l'empereur Marc Aurèle commence sa grande persécution. Saint Justin refuse de sacrifier aux dieux et il est décapité. Philosophe, quand il eut découvert la vraie sagesse dans la vérité du Christ, il la suivit entièrement, la montra dans son comportement, l'enseigna, la défendit par ses écrits et mit le sceau à son témoignage par sa mort à Rome, sous l'empereur Marc Aurèle, entre 163 et 167. Après avoir présenté à l'empereur son apologie pour la religion chrétienne, il fut traduit devant le préfet Rusticus, se déclara chrétien et fut condamné à mort. Avec lui sont commémorés ses disciples, les saints martyrs Chariton et Charite, Évelpiste et Hérion, Pacon et Libérien, qui reçurent en même temps que lui la couronne de gloire. Dernière parole du mystérieux vieillard rencontré par le philosophe Justin au bord de la mer. Prie avant tout pour que les portes de la lumière te soient ouvertes, parce que personne ne peut voir et comprendre si Dieu et son Christ ne lui accordent pas de comprendre. Mercredi 2 juin, Saint Blandine et Saint Potin et leurs 46 compagnons martyrs à Lyon qui moururent en 177. La violence de la persécution a été telle, la fureur des païens contre les saints et les souffrances endurées par les bienheureux martyrs ont été si véhémentes que nous ne saurions les décrire complètement. Ainsi commence la lettre que les églises de Lyon et de Vienne adressèrent aux églises d'Asie mineure au lendemain de la persécution déclenchée par l'empereur Marc Aurèle. Nombre de chrétiens de Lyon et de Vienne sont mis en prison. Parmi eux, l'évêque de Lyon, Saint Potin, le jeune Vétui, qui voulait prendre la défense de ses frères, le diacre de Vienne, Sanctus, le nouveau baptisé, Maturus, la petite esclave, Blandine, et le tout jeune Ponticus. On les livre à la haine de la population. On les torture pour les forcer à renier leur foi. Quelques-uns abjurent. La plupart confessent leur foi au milieu des supplices. Beaucoup succombent dans la prison. Les survivants sont jetés aux fauves. C'est alors que, coup de théâtre, ceux qui avaient abjuré sont comme enfantés à nouveau à la foi par la mort de leurs frères. Ils rejettent leur abjuration, confessent à nouveau leur foi et partagent le martyre des premiers. Le martyre de Blandine frappa tous ceux qui le virent. Après les fouets, les bêtes, le grill, elle fut mise dans un filet et livrée à un taureau. Plusieurs fois projetée en l'air par l'animal, elle n'avait plus le sentiment de ce qui se passait tant elle était prise par son espérance et son entretien avec le Christ. Les corps des martyrs furent exposés aux injures de l'air pendant plusieurs jours. Ensuite, on les brûla. Les cendres furent balayées jusqu'au Rhône. La lettre qui relate ces événements fut peut-être rédigée par saint Irénée, successeur de saint Potin. Saint Potin, disciple de Polycarpe. Potin arrive de Smyrne en Asie mineure vers 140. Il est donc le premier évêque de Lyon. En 177, il fut amené au tribunal, roué de coups et jeté en prison, où il mourut rapidement. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Blandine. Jeudi 3 juin, Saint Kevin ou Kevin, abbé de Glendalough, qui mourut en 618. Chez les Irlandais, il ne le cède en popularité qu'à Saint Patrick. Il fonda un site admirable, le célèbre monastère de Glendalough, près de Dublin. Ceux qui s'y rendaient 7 fois en pèlerinage gagnaient autant d'indulgence que s'ils faisaient le pèlerinage des 7 basiliques romaines. C'est donc en l'an 622, à Glendalough en Irlande, que Saint Kevin, qui fonda un monastère où il fut abbé, où il fut également le père et le chef d'un grand nombre de moines. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Kevin, Kevin. Il existe un dicton en ce jour de la Saint-Kevin ou Kevin qui dit ceci. Le temps qu'il fait en juin le 3 sera le temps du mois. C'est un dicton du Poitou. Vendredi 4 juin, Sainte Clotilde, reine des Francs, qui mourut en 545. Célébrée à cette date en Île-de-France, elle était originaire de Bourgogne et chrétienne. Donnée en mariage à Clovis, elle ne rendit pas son mari moins sanguinaire, lui qui tuait les membres de sa famille et les chefs francs qui le gênaient. Reine de France, elle fut patiente et obtint la conversion de son époux Clovis. Mais ce dont on parle moins, et c'est bien dommage, ce sont les épreuves de cette reine patiente, de cette épouse d'un mari irascible et de cette mère de famille qui perdit son fils premier-né et qui, plus tard, vit l'un de ses fils massacrer sa famille. Elle se retirera à Tours pour être près du tombeau de Saint-Martin. Sainte Clotilde est justement célébrée en France comme celle qui, par sa foi, touche les cœurs et les conduit à la conversion. Elle est aussi celle qui, par sa prière, a obtenu la victoire aux troupes franques à Tolbiac contre les Alamans. Elle est encore celle qui, dans un monde rude et violent, a su éduquer Clovis à plus d'aménité et de douceur. Son culte est notamment célébré dans l'Aisne, à Vivière et à Valséry, dans le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, dont les abbayes possédaient des reliques de la Sainte. Et grâce à ses prières, son époux Clovis, roi des Francs, accueillit la foi du Christ. Après la mort du roi, elle se retira pieusement près de la basilique de Saint-Martin, ne voulant plus être considérée comme reine, mais comme servante de Dieu. Sainte Clotilde est inscrite le 3 juin au martyrologe romain, et en France, sa mémoire est reportée au lendemain. Sainte Clotilde est la patronne de l'aviation légère de l'armée de terre. Il existe un dicton qui dit ceci. À la Sainte Clotilde, de fleurs en buisson, abeilles butines à foison. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Clotilde. Samedi 5 juin. Saint Igor II, qui fut prince de Moscovie et mourut en 1147. Prince de Kiev et de Tchernikov, il dut abandonner ses droits dynastiques sous la pression des habitants. Devenu moine au monastère de Saint Théodore de Kiev, il n'en fut pas moins poursuivi par la haine du peuple contre la dynastie des Ogovitch, et il fut sauvagement assassiné un jour qu'il priait devant l'icône de la Mère de Dieu. Il existe un dicton pour la Saint Igor qui dit ceci. Prépare au temps de tonneau qu'en juin, tu compteras de beaux jours. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Igor. Dimanche 6 juin, Saint Norbert de Xanten, archevêque de Magdebourg, qui mourut en 1134. Norbert était un jeune noble apparenté à l'empereur d'Allemagne, chanoine prébendé de la collégiale de Xanten en Rhénanie, délaissant ses devoirs de clerc pour vivre à sa guise une vie bien agréable et totalement vide. À 35 ans, la route de Vreten en Westphalie fut pour lui un chemin de Damas. Il y est foudroyé par une conversion subite. Délaissant ses biens, il se consacre au service de l'Église dans l'esprit de la réforme grégorienne. Fidèle à son époque, il embrasse la pauvreté et devient prédicateur itinérant dans toute l'Europe, incitant les clercs à mener la vie commune propre à leur état. Pour enraciner cette réforme profonde des mœurs ecclésiastiques, il fonde à Prémontré près de Laon une communauté de chanoines réguliers, alliant la pratique de leur sacerdoce séculier avec la vie régulière des moines. Nommé archevêque de Magdebourg, où les clercs mécontents de ses réformes tenteront de l'assassiner. Il verra de son vivant la fondation d'une dizaine de communautés prémontrées à travers l'Europe. Norbert de Genep, né vers 1080, fut dès son jeune âge chanoine de la collégiale Saint-Victor à Xanten. En prêchant, il recrute des disciples, Évermode à Cambrai, Antoine à Nivelles. À Pâques 1120, au nombre de 14, tous s'installent à Prémontré. Ils décident entre eux qu'ils seront des chanoines réguliers et qu'ils se conformeront à la règle de Saint-Augustin. Laissant aux prières Hugues de Fosse la direction de la communauté. Norbert ne cessera d'aller prêcher. L'empereur avait convoqué une diète à Spire en 1126 pour régler, entre autres, la nomination d'un archevêque à Magdebourg. Pour Norbert, qui était également convié à cette assemblée, la vie allait totalement changer. À Magdebourg, le nouvel archevêque trouvait dans l'administration et le personnel ecclésiastique bien des abus à punir, des malversations à faire cesser, des mœurs à réformer et des aliénations à supprimer. Il s'y attachera sans tarder. La réforme du clergé était son principal objectif, mais ses décisions se heurtèrent à de vives oppositions. Les dernières années furent dominées par une activité politique au service de l'Église et de l'Empire. Il put encore consacrer les saintes huiles le jeudi saint et il célébrera sa dernière messe assis le jour de Pâques. Il mourut saintement le 6 juin 1134. Le pape Grégoire XII le canonisera le 28 juillet 1582. De mœurs austères, tout entier donné à l'union avec Dieu et à la prédication de l'Évangile, il fonda donc à Prémontré, près de l'an, l'ordre des chanoines réguliers et devenu évêque de Magdebourg en Saxe, il réformera donc dans son église la vie chrétienne et s'emploiera à répandre la foi chez les peuples voisins. Il existe un dicton pour la Saint-Norbert qui dit ceci. Les bains que prend Saint-Norbert inondent la terre. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Norbert. À la semaine prochaine.